Europe 1, dans votre mobile.
Grand frais.
Ouais, c'est le DJ. Pour le festival de demain, je peux pas. J'ai grand frais. Ils offrent un délicieux saucisson pour la fête des pères. Mais mettez la compile Mega Hit 2004, hein. C'était cool, dans mes souvenirs.
Chez Grand Frais, les 13 et 14 juin, votre artisan boucher vous offre un saucisson sec supérieur 100% français. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais,
le meilleur marché.
Dès 25 euros d'achat au rayon boucherie traditionnelle, 150 grammes, élaboré en France, selon stock disponible, modalité sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Ce week-end sur Europe 1.
Demain, de 17h à 18h, Isabelle Morizet accueille Frédéric Taddeï
pour la nouvelle édition de ses Birthday Books.
Dimanche, de 11h à 12h30,
assistez avec William Lémergie à la 20e édition de la Nuit des Chimères au Mans.
Et de 18h à 19h,
Nicolas Caro reçoit Sophie Broca,
lauréate 2025 du Grand Prix Europe 1 JMF.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros, Elliott Deval.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et CNews jusqu'à 10h30. À la une de l'heure des pros ce matin, des milliers de militants ont donc accueilli place de la République Rima Hassan. Si le 7 octobre est un tournant historique où un terroriste est devenu un résistant, un pogrom, une action légitime, cette semaine en est un également. Les mots kidnapping, otages, grève de la faim volent en éclats. Des otages à Gaza, il y en a, aux mains du Hamas, et ce depuis un an et demi, encore 54, dont seulement 20 en vie. Otages, vous avez dit, toute une population gazaoui l'est également. Otages d'un groupe terroriste qui se joue de la mort d'un enfant, qui se sert d'un hôpital pour cacher ses armes, d'une école pour creuser un tunnel, d'un camion humanitaire comme monnaie d'échange, des drames civils, il en faut toujours plus, pourvu qu'il alimente la haine. À 2000 km de la place de la République, dans les geôles d'Alger, un Français est détenu contre sa volonté. Boualem Sansal ne pourra peut-être jamais revoir la France. Sa boussole n'est pas celle de l'eurodéputé Hassan qui fait de l'Algérie de Tebboune la Mecque des libertés. Rima Hassan est de retour sur le sol français, pays qui l'a accueilli à bras ouverts quand elle était enfant, qui cette semaine a exigé son retour dans les plus brefs délais, a suivi heure par heure sa présence en Israël et pourtant hier, Rima Hassan ne levait toujours pas un drapeau bleu-blanc-rouge. Il eût été plus sage de se taire ce matin pour éviter les menaces, les attaques, les insultes, pour ne pas remettre une pièce dans la machine médiatico-politique de LFI. Mais comment ? Comment rester silencieux face à l'opération la plus cynique de ces dernières années ? Et on en parlera ce matin, bien sûr. Mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Chana Lousteau. Bonjour Chana.
9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1.
Bonjour Elliott, bonjour à tous. L'Iran a lancé une centaine de drones sur Israël ce matin. Certains viennent d'être interceptés par Tsahal en dehors du territoire israélien. La riposte de Téhéran est une réponse à l'attaque israélienne de la nuit où une centaine de cibles ont été visées, dont des sites militaires et des installations du programme nucléaire iranien. Une opération couronnée de succès, dit Benjamin Netanyahou, où 200 avions de combat ont été mobilisés. Et on apprend que les pilotes israéliens sont encore en train d'attaquer en Iran. Une marche blanche partira du collège de Nogent ce soir à 18h pour rendre hommage à Mélanie. Son meurtrier présumé a passé sa première nuit en prison. Quentin G a été mis en examen hier pour meurtre et placé en détention provisoire. L'adolescent de 14 ans a une nouvelle fois reconnu avoir mortellement poignardé la surveillante de son établissement. Et puis les obsèques de Philippe Labro seront célébrées ce matin à 10h30. La cérémonie se tiendra au sein de l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il sera ensuite inhumé dans l'intimité familiale. Grande figure du journalisme, homme de culture, réalisateur, écrivain et bien plus encore. Philippe Labro est mort à 88 ans le 4 juin dernier des suites d'un cancer. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Elliott.
Merci, cher Chana Lousteau, et on vous souhaite un excellent week-end. Autour du plateau de l'heure des pros ce matin, on est avec Georges Fenech, avec Eugénie Bastier, avec André Valigny, Olivier de Lagarde, Thomas Bonnet, et on est très heureux d'avoir également Mona Jafarian. Vous êtes cofondatrice du collectif Femmes Azadi, vous êtes iranienne. Vous êtes auteur de Mon Combat, mais également je suis iranienne. Et si vous êtes sur ce plateau ce matin, c'est parce que vous avez le courage depuis plusieurs mois, plusieurs années, de condamner le régime iranien au péril de votre vie. Vous êtes placé sous protection et vous avez, je le disais, ce combat qui vous est cher. Et on a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer en Iran, parce que au-delà des frappes sur les sites nucléaires, c'est bien sûr les têtes les plus fortes de l'Iran qui sont également visées, de ce régime iranien, bien sûr. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on voit le sujet de ce qui s'est passé ce matin. On sera dans quelques instants avec le colonel Rafovitch, qui est le porte-parole de l'armée israélienne. Il accordera son premier entretien en exclusivité à CNews ce matin pour nous apporter les dernières informations concernant cette offensive militaire. Mais avant cela, voyons le sujet de Marine Sabourin.
Les Iraniens se réveillent ce matin et constatent l'ampleur de l'attaque israélienne. Toute la nuit, des bombardements ont retenti dans le pays. Plusieurs sites militaires et nucléaires iraniens ont été visés par Israël. L'État hébreu parle de frappes préventives afin d'empêcher le régime iranien à construire une bombe nucléaire dans les plus brefs délais.
Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne pesant sur la survie même d'Israël. Cette opération continuera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace.
Selon les médias locaux, le puissant chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, aurait été tué dans ses frappes. Quelques heures plus tôt, les États-Unis avaient publiquement exhorté Israël à ne pas effectuer ces bombardements. Donald Trump s'opposait à cette intervention et assurait même être proche d'un bon accord sur le nucléaire iranien. Le président américain va réunir cet après-midi son Conseil de sécurité nationale. Reste à savoir quelle sera la réponse de l'Iran et comment les États-Unis interviendront en défense de l'État hébreu.
Mona Jafarian, je rappelle que donc vous êtes cofondatrice du collectif Femmes Azadiques. Vous êtes iranienne. Comment vous définissez ce qui s'est passé ce matin et comment vous l'avez vécu, en quelque sorte ?
Pour nous, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on suit justement le dossier nucléaire depuis des années et notamment depuis ces derniers mois. Et on voit bien qu'il y avait une volonté d'Ali Khamenei de ne pas accepter cet accord. On n'a pas arrêté d'alerter sur le sujet puisque on avait l'impression que finalement les diplomates américains écoutaient beaucoup les discours en anglais du ministre des Affaires étrangères de la République islamique. Mais nous, on écoute les discours en persan d'Ali Khamenei et il a toujours été clair qu'il n'arrêterait jamais l'enrichissement en nucléaire, que c'était sa ligne rouge et il continuait à appeler régulièrement à la destruction d'Israël et des États-Unis. Donc on savait qu'un jour ou l'autre, Khamenei allait nous mener à cette guerre, qui n'est pas celle du peuple iranien, mais qui est bien celle du régime. Et c'est vrai que cette nuit, on a suivi, j'ai pas dormi encore, mais on a suivi toutes ces frappes, et c'est vraiment tout le haut commandement des gardiens de la révolution islamique qui a été éliminé, le bras droit de Khamenei, le chef du corps des gardiens de la révolution. On nous rapporte également des frappes sur les lieux de stockage de missiles balistiques, sur des centrales nucléaires. Pour le moment, c'est encore difficile de savoir comment la population réagit. Il y a déjà des messages de félicitations pour la mort des leaders et des gardiens, puisque c'est des gens qui ont versé le sang de milliers et de milliers d'Iraniens. Mais c'est vrai que là, c'est encore trop tôt pour savoir exactement...
Et c'est pour ça qu'on restera aussi très prudent ce matin sur ce qu'il s'est passé cette nuit, puisqu'on attend d'avoir toutes les confirmations nécessaires. Mais c'est essentiel d'avoir votre regard. Pourquoi ? Parce que je sais très bien ce qui va se passer dans les prochaines heures. Officiellement, les responsables politiques vont condamner l'intervention de l'armée israélienne. Officieusement, ils sont bien contents de ce qui est en train de se passer. Et quand vous parlez du peuple iranien, Mona Jafarian, c'est un peuple qui est en grande souffrance. Et je parle surtout des femmes iraniennes qui, au péril là aussi de leur vie, luttent contre ce régime qui a complètement bouleversé les droits fondamentaux et l'égalité qu'il pouvait y avoir avant la révolution entre les femmes et les hommes.
Vous savez, nous, on est effectivement, je pense que dans les minutes, les heures qui vont venir, il va y avoir des condamnations internationales de ce qui s'est passé cette nuit. Et face à cette hypocrisie, nous, on aimerait quand même bien la dénoncer parce que ça fait quand même des années qu'on demande aux dirigeants du monde libre de cesser ces négociations, d'isoler le régime, de mettre des sanctions financières, de soutenir le peuple iranien qui se révolte sans cesse contre ce régime. Aujourd'hui, on estime qu'il y a quasiment 90% des Iraniens qui sont opposés à la République islamique. Sauf qu'à chaque fois que le peuple se soulève, eh bien, les dirigeants occidentaux en profitent pour mener des négociations dans des situations de faiblesse pour le régime. Comme si finalement l'Occident ne comprenait pas l'ADN même de ce régime qui est vraiment le djihad, le terrorisme et la volonté de destruction des puissances occidentales. Donc, il est vrai que nous, on aurait aimé une prise de conscience avant. Encore hier, l'AIEA était en train d'alerter sur la gravité de la situation. Et bien puis, sûr. Dans le même temps, on avait quand même Donald Trump qui disait qu'il avait encore un espoir d'un accord, ce qui nous paraît complètement fou au vu des déclarations de la République islamique. Pour ce qui est du peuple iranien, vous savez, la République islamique a davantage peur du peuple que d'Israël même, parce qu'il sait que son plus grand danger aujourd'hui, il est intérieur. Et d'ailleurs, la première chose qu'est en train de faire le régime ce matin, c'est de couper l'accès Internet aux Iraniens pour éviter que les informations ne nous parviennent, mais aussi pour éviter que les Iraniens ne puissent s'organiser à l'intérieur du pays.
Et Mona Jafarian, ce sont que les chaînes d'État qui, aujourd'hui, en Iran, relaient les informations qui sont évidemment sous le contrôle des autorités iraniennes. Donc tout est évidemment retouché et les informations circulent au compte-gouttes. Quand je vous parlais de la diplomatie, je vais vous donner aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews toutes les informations qui viennent minute par minute. Je vois la première déclaration de la diplomatie française. Frappe d'Israël sur l'Iran. Paris appelle toutes les parties à la retenue. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a un communiqué.
Il y a un communiqué
qui a été publié par Jean-Noël Barrot. Ils expriment le fait que la priorité de la France, c'est la sécurité des ressortissants et des intérêts français. Ils disent également qu'ils ont exprimé à plusieurs reprises leurs vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien, notamment avec la résolution récemment adoptée à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et nous réaffirmons, dit le communiqué, le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Il est essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions.
Ah, donc c'est-à-dire que moi j'ai entendu Maud Brejon, l'une des paroles Renaissance ce matin dans une des matinales, on l'entendra, condamner l'opération militaire de l'armée israélienne. Dans ce communiqué, il n'y a pas de condamnation pour l'instant.
Il n'y a pas de condamnation, c'est un communiqué où chaque mot
un premier pas. Georges Fenech, que dites-vous?
L'important, c'est le communiqué officiel.
Bien sûr, vous avez raison.
On appelle à la retenue.
Oui.
Donc, il n'y a pas de condamnation claire, en tout cas, de ces frappes israéliennes. De même que les Américains. Vous avez vu, Donald Trump ne condamne pas non plus très fermement.
Alors, Donald Trump qui avait été tenu en courant en amont.
Et bien sûr. Et vous pensez bien qu'Israël a dû avoir de manière officieuse un feu vert, car ça arrange tout le monde cette histoire. Bon. Car ce régime, vous avez raison là de dire, distinction avec le peuple iranien, ça n'a rien à voir.
Mais
c'est un régime qui présente un danger pour le monde.
Mais évidemment.
Donc je crois que beaucoup doivent se dire, si on peut effectivement éliminer le risque nucléaire iranien, c'est une bonne chose pour la paix dans le monde.
Et c'est pour ça que je voulais absolument que Mona Jafarian soit sur ce plateau, parce que vous représentez une voix de la population iranienne, ces femmes, et on pensait évidemment depuis le soulèvement de la population, au péril encore une fois des vies des femmes iraniennes au moment de l'assassinat de Mahsa Amini, qui a été tuée parce qu'elle portait mal son voile en Iran. Et d'ailleurs, j'ai une pensée aussi pour Julien Drey, responsable politique qui vient souvent chez nous. Julien Drey avait été l'un des premiers à demander à ce que chaque dimanche, lorsqu'on faisait notre émission, de parler de Mahsa Amini, en disant ce qui se passe en Iran est un bouleversement. Et au moment du 7 octobre, toujours Julien Drey qui sera avec nous ce soir dans l'heure des pros, au lendemain du 7 octobre, m'avait dit ce pogrom, cette attaque terroriste a un nom, c'est le Hamas bien sûr, mais c'est aussi piloté par l'Iran.
Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, parce que quand on parle de l'Iran, du peuple iranien, du 7 octobre, ça peut paraître loin pour les gens. Mais chaque semaine, sur le territoire européen, il y a des tentatives d'attentats qui sont déjouées par les services de renseignement des mains des gardiens de la révolution islamique. Il y a des cellules qui sont en place en Angleterre, en France, en Allemagne, partout, pour faire monter l'intégrisme, pour infiltrer, pour mener des cyberattaques, mais surtout des assassinats ciblés. Donc on n'est pas à l'abri parce qu'on est en Europe. Israël était le dernier rempart finalement, donc c'est pour ça qu'Israël a été attaqué le 7 octobre. Mais la finalité de l'idéologie de ce régime et de ses proxys terroristes, c'est bien l'annihilation de l'Occident. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis des semaines, puisque les attaques sur le sol européen s'accentuent. Et d'ailleurs, il y a des procès en cours en ce moment en Angleterre sur 7 membres des gardiens de la révolution islamique qui ont été arrêtés parce qu'ils prévoyaient de mener des attaques massives sur le territoire anglais.
Et ne pas être dupe non plus de cet axe iranien, régime iranien, Hezbollah, Hamas, mais également les Houthis au Yémen, qui disent soutenir le droit légitime de l'Iran à se défendre après les frappes israéliennes, puisque l'Iran envisage de frapper massivement à l'aide de drones, et il y en a déjà une centaine qui sont en direction d'Israël, et que l'armée israélienne souhaite intercepter. Je vous propose d'écouter quelques réactions, évidemment je vous donne la parole dans un instant, Olivier de Lagarde. Donald Trump d'abord.
Je veux un accord avec l'Iran. Nous sommes assez proches d'un accord. Nous sommes assez proches d'un bon accord. Il faut qu'il soit meilleur qu'un bon accord, mais il faut qu'il soit... Je préférerais de loin un accord. Tant que je pense qu'il y a un accord... Je ne veux pas qu'ils interviennent parce que je pense que cela ferait capoter l'accord. Que cela pourrait l'aider, en fait. Mais que cela pourrait aussi le faire capoter. Mais nous avons eu de très bonnes discussions avec l'Iran. Je ne peux pas vous dire si nous y parviendrons ou non. Mais cela ne saurait tarder. Je le dis très fermement, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Je préfère la voie la plus amicale.
Et le communiqué des États-Unis, de la diplomatie américaine à 6h du matin, disait noir sur blanc, nous ne participons pas aux frappes contre l'Iran, mais les États-Unis ont bien évidemment été tenus au courant en amont par l'armée israélienne. Vous souhaitiez prendre la parole, Olivier de Lagarde.
Pourquoi est-ce que la France appelle à la retenue aujourd'hui? Pourquoi, comment est-ce que s'explique finalement ce communiqué tout en retenue?
Pour plusieurs raisons. Il aurait pu être pire, hein, ce communiqué.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu cette décision de la IEA mardi, et ça, ça a été une bombe, sans mauvais jeu de mots, hein, parce que ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu un communiqué aussi fort de la IEA qui dénonçait véritablement une situation en Iran absolument insupportable, expliquant que l'Iran avait triché, que il disposait de quoi fabriquer une dizaine de bombes atomiques. Et donc, ça, c'était pas possible. Pour Israël, ça représente une menace existentielle. Donc, ces frappes ne sont pas complètement une surprise. Pourquoi quand même cet embarras? Parce qu'il y a des négociations qui étaient en cours. C'est vrai qu'il y a des négociations qui étaient en cours. Et puis, par ailleurs, il y a une grande question qui se pose aujourd'hui. C'est quelle va être la nature de la riposte iranienne sur Israël? Est-ce qu'on va avoir une riposte, finalement, ponctuelle, presque symbolique, comme on en a eu précédemment lors des différentes attaques? Sauf que l'attaque à laquelle on a assisté cette nuit, c'est une attaque hors norme. C'est pratiquement une déclaration de guerre d'Israël à l'Iran. Est-ce qu'on va vers un embrasement général? Là, ça, c'est évidemment une grande question qui se pose. Et puis, Georges Fenech le disait très bien. Quelle est la situation des États-Unis là? Donald Trump a dit qu'il était hostile à ces frappes, mais il est informé. Et de toute façon, Israël ne peut rien faire sans l'avis des
États-Unis. Vous avez dit à juste titre, c'est une attaque hors norme, Olivier de Lagarde, ce n'est pas une attaque hors de contrôle, puisque c'est une attaque militaire chirurgicale. Et dans un instant, Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne, nous expliquera peut-être quels ont été les sites précisément nucléaires qui ont été touchés.
Mais 200 avions engagés,
vous avez raison, sans pour autant qu'il y ait une diffusion, l'inquiétude quand vous touchez un site nucléaire, c'est que, évidemment, ça puisse avoir des conséquences dramatiques, ce qui n'est pas le cas, visiblement, selon les premiers éléments. Et puis ensuite, quand je dis frappe chirurgicale, c'est que vous aviez les têtes pensantes des gardiens de la Révolution qui ont été mis hors d'état de nuire, Eugénie Bastier.
Oui, alors on sait très bien qu'aujourd'hui, l'Iran est un facteur de déstabilisation majeure au Proche-Orient. C'est l'Iran qui empêche finalement la paix d'avenir dans cette région. Alors Israël appelle l'Iran la pieuvre, parce qu'effectivement, il y a ces proxys qui sont les Houthis au Yémen, en Syrie également, le Hezbollah, qui a été décapité, notamment avec la chute de Bachar el-Assad. Effectivement, on voit qu'il y a des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, qui sont plus dans une volonté de sortir d'une guerre religieuse et d'aller plus vers une relation apaisée du commerce au Proche-Orient. Et l'Iran, effectivement, est le nœud qui bloque aujourd'hui la paix à advenir dans cette région. Et espérons que le changement de régime puisse arriver aussi par le bas, aussi par ce peuple iranien qui est-ce que, d'ailleurs, je voulais vous demander ça, Mona Jafarian, est-ce que vous pensez qu'il y a une société civile qui est aujourd'hui prête à prendre le pouvoir, à être une alternative aux mollahs, des gens capables de diriger le pays, une élite qui puisse, demain, si le régime s'effondre, prendre le pouvoir.
Mona.
Oui, c'est possible. On a aujourd'hui une opposition qui est massivement soutenue à l'intérieur du pays, en la personne de Reza Pahlavi. Il y a un plan de prospérité qui a été présenté le mois dernier avec de nombreuses mesures pour l'Iran d'après, mais aussi pour la phase de transition. Mais encore une fois, Israël avait une longueur d'avance sur tout le monde, puisqu'il y a déjà 2 ans, il avait été reçu en Israël. Et on appelle aussi maintenant les gouvernements du monde libre à commencer ce dialogue avec l'opposition, à pouvoir envisager l'Iran de demain, parce qu'il est fort probable que les Iraniens profitent de cette fenêtre de tir pour sortir massivement à nouveau dans la rue, mais cette fois avec un soutien qu'ils n'avaient jamais eu auparavant.
Je vous propose d'écouter l'ambassadeur d'Israël en France et ensuite j'aimerais avoir votre réaction, l'ancien ministre que vous êtes, André Vallini.
Le président a dit d'une façon très claire ce matin encore, après l'attaque, qu'une solution diplomatique pouvait être encore possible. Vous savez, dans toute attaque, opération militaire, il y a toujours la diplomatie qui doit suivre. Et là, la diplomatie devra suivre pour faire en sorte que ça s'arrête, cette opération s'arrête et que les Iraniens ne reprennent pas leur programme nucléaire, qui est un programme très dangereux, non seulement pour Israël, pour la région au Moyen-Orient, mais pour le monde entier. La reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui serait un désastre non seulement pour les Palestiniens et les Israéliens, mais aussi pour la participation de la France dans différents processus diplomatiques dans le futur au Moyen-Orient et pour la stabilité du Moyen-Orient en général. Un processus diplomatique entre nous et les Palestiniens doit être un processus diplomatique direct entre nous et les Palestiniens. Et d'abord, ça ne peut pas se faire quand nous sommes encore en guerre avec le Hamas et quand nous avons encore 55 otages entre les mains du Hamas.
Je rappelle que plusieurs cadres du régime iranien ont été tués. Le chef d'état-major iranien Mohamed Bagheri, un autre haut commandant de ce corps d'élite iranien, le général Gholam Ali Rashid, et le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami. On a entendu l'ambassadeur parler de diplomatie. On voit aussi qu'il y a 2 enjeux qui sont essentiels. L'enjeu nucléaire, bien sûr, André Vallini, mais aussi l'enjeu d'un régime qui a toujours aujourd'hui mis en difficulté ceux qui tentaient de former une sorte d'opposition. Et je pense surtout aux femmes iraniennes.
Oui, moi, je comprends le Quai d'Orsay qui fait preuve de prudence, c'est la diplomatie qui veut ça, mais moi je trouve, j'allais dire hélas, que ce qui s'est passé cette nuit est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que d'abord, c'est existentiel pour Israël. La menace nucléaire de l'Iran est existentielle pour Israël et Israël a le droit de se protéger et d'en finir avec cette menace nucléaire que faisait peser l'Iran et que fait peser l'Iran sur son existence. Deuxièmement, c'est une très bonne chose si ça permet de renverser le régime des Mollahs. J'ai rencontré à plusieurs reprises le fils du Shah, Reza Pahlavi, à Paris. C'est quelqu'un qui est prêt. Alors évidemment, il y a des républicains qui disent « mais alors ce serait le retour d'une monarchie ». Il a toujours dit qu'il organiserait un référendum. Dès qu'il serait de retour dans son pays, il proposerait un référendum pour demander aux Iraniens « Est-ce que vous voulez le rétablissement de la monarchie ou une république démocratique ?» Donc, si ça permet de garantir la sécurité d'Israël, d'une part, et d'autre part, de renverser les Mollahs, eh bien, c'est une très bonne chose.
Mona Jafarian, vous avez fondé un collectif Femmes Azadi. Quand est-ce que... La dernière fois que vous êtes allée en Iran, c'était il y a combien de temps ?
C'est il y a 12 ans.
Il y a 12 ans. Vous avez grandi, vous avez... C'est toute votre enfance en Iran ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Iran ? Ce que était l'Iran avant et ce qu'est l'Iran aujourd'hui ?
Alors, l'Iran d'avant, c'est ma mère qui m'a raconté ce qu'était l'Iran d'avant. C'était un pays où il y avait l'égalité des droits, où les femmes n'étaient pas obligées de porter le voile, où elles ont eu le droit de vote, elles ont eu le droit à l'avortement, il n'y avait pas la charia. Vous savez, ma propre mère, elle a participé à un concours de Miss, donc pour vous dire à quel point finalement c'était moderne. On avait Frank Sinatra qui venait chanter à Téhéran, enfin, et du jour au lendemain, cette alliance entre les fédayines, les moudjahidines, enfin tout ce qui était extrême gauche, léniniste, marxiste de l'époque, s'est allié aux islamistes et a fait basculer le pays en l'espace de quelques mois dans l'obscurantisme. Et d'un seul coup, l'âge du mariage pour les petites filles est passé à 9 ans. Elles étaient voilées de force à 6 ans. Les femmes ont perdu tous les droits qui étaient acquis. Et pourtant, ce peuple iranien est resté le même. C'est un peuple qui est très, très éduqué, qui est très ouvert, qui a gardé ses traditions iraniennes, qui a gardé ses fêtes zoroastriennes. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés de génération en génération, c'est que nos parents ont résisté et nous ont inculqué nos valeurs. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui a soif de liberté et qui ne demande qu'à être libre et être l'allié des démocraties.
C'est absolument passionnant ce que vous nous dites ce matin sur CNews et sur Europe 1. Et on va continuer d'avoir votre témoignage tout au long de la matinée. Et je vous remercie une nouvelle fois, chère Mona Jafarian. Vous avez entendu la petite cloche, puisque évidemment c'est
le carillon.
La passation avec carillon. Thomas. Le carillon, oui, le carillon, la cloche.
Bonjour
Eliott.
Ça vous
fait sourire, mais on a la même veste. Elle est très belle, votre veste, Thomas Hill. Veste
vous l'avez
blanche.
Non, la vôtre.
Bah oui, pas aujourd'hui, mais je veux dire que j'ai
plusieurs vestes.
Bah oui, mais cette veste blanche vous va ravir, cher Thomas.
Et je vois qu'on se rattrape, on se retrouve en termes de coupe de cheveux là. Hein. Il y a eu un rafraîchissement, Eliott. Je l'ai noté.
C'est vrai. Écoutez, on est de plus en plus raccord. Quel est le programme pour vous, cher Thomas?
Ben écoutez, alors vous savez qu'aujourd'hui, donc Pascal Praud n'est pas là parce qu'il est aux obsèques de Philippe Labraud. Eh bien, il se trouve que Philippe Labraud a écrit, vous le savez, pour Johnny, et on va beaucoup parler de Johnny Hallyday dans cette émission. On sera avec Gérard Pulicino, le réalisateur d'un concert absolument mythique. C'était à la Tour Eiffel il y a 25 ans, 600 000 personnes devant Johnny Hallyday. On va en parler ce matin parce que c'est à l'affiche au cinéma dimanche soir. Ce concert va être diffusé un peu partout en France.
Et vous savez qu'on sera entre 10h et 10h30, cher Thomas, avec l'ancien garde du corps de Johnny Hallyday.
Ah oui.
Et il a pas mal d'anecdotes à nous raconter, bien évidemment, qu'il a été au plus près du dieu Johnny. Ouais. Hallyday, votre chanson préférée de Johnny, c'est laquelle, Thomas?
Je crois que c'est « J'ai oublié de vivre ».
Oh, magnifique. J'espère qu'on a quelques chansons. Non, mais ça ira. Merci beaucoup. Autant vous avez du goût pour le style, pas pour la musique. Merci beaucoup, cher Thomas, et bonne émission.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et on se retrouve donc pour Culture Média, la dernière de la semaine. On va s'intéresser aux aventures particulièrement galères d'Antoine de Maximi, qui s'est rendu à Oman. Et puis ensuite, donc, Johnny sera au cœur de cette émission. A tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h sur Europe 1.
Culture Média.
Observons un bricoleur à tête froide dans son jardin. Il cherche la fraîcheur durant la saison chaude. Et sur Mano Mano, il trouve les parasols, clim et piscine pour enfin les arder tout l'été. C'est ça, l'effet Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Eh ben, j'ai fait le tri dans mes bijoux en or. Je les ai revendus chez Or en Cash. Et voilà, ça paye les soins du surf.
Revendez vos bijoux et profitez pleinement de votre été avec Or en Cash.
Or en Cash achète cash.
Transaction réservée aux majeurs et soumise à réglementation. Paiement par chèque ou virement.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990€. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais avancé. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair, conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur rocéclair.com.
Europe 1.
Et vous êtes bien sur Europe 1. Heureusement, c'est la radio qui vous rafraîchit ce vendredi plus chaud de l'année, 38 degrés à Auxerre. On est là, on va vous apporter de la fraîcheur avec Culture Média, Thomas Hill et toute l'équipe qui vous accompagne jusqu'à 11h. À tout de suite.
Europe 1.
Bonjour.
Pour tous les amoureux et les passionnés de l'automobile, les 24 heures du Mans, c'est bien sûr 24 heures de course. Mais c'est surtout 24 heures d'émotion. Et chez Peugeot, on vous en offre 24 fois plus. Jusqu'au 24 juin, ce sont les 24 jours chrono avec des offres exceptionnelles sur toute la gamme Peugeot. Jusqu'à 5000 euros d'avantages clients et 8 ans de garantie offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre valable pour toute commande d'une Peugeot neuve réservée aux particuliers. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Grand frais.
Coucou papa, bon désolé, je pourrais pas venir te voir pour la fête des pères demain. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des bananes sucrées fondantes et pleines de soleil. Mais au moins, j'ai déjà ton cadeau pour l'année prochaine. Allez, patience, plus que 360 demain. Je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont des bananes sucrées fondantes et pleines de soleil. Mais au moins, j'ai déjà ton cadeau pour l'année prochaine. Allez, patience. Plus que 365 jours à attendre. Bisous.
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les bananes des Antilles sont à 99 centimes le kilo. Régalez-vous. Faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Origine France.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 euros par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 euros option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5000 euros. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 Adata mai 2025. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos cerises Origine France sont tout d'une très bonne cerise. Sucrées et irrésistibles, elles autorisent certains amusements comme
« Les enfants, papa, des cerises en boucle d'oreille, c'est cool, non ?»
Oui, vraiment, nos cerises ont tout d'une très bonne cerise, mais à prix discount. 3,49€ la barquette de 500 grammes au lieu de 4,99€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, soit 30% de remise immédiate, 6,98€ le kilo versus 9,98€. Offre valable jusqu'au samedi 14 juin, info sur aldi.fr.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places? Un loyer attractif? Et pourquoi pas une Mercedes? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois, 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, chez nous, on est 100% bio. Les yaourts, les œufs, les fruits et légumes, tout y passe.
Bravo. Et justement, on a une super réduction sur le bio. Ça fait longtemps que vous vous y êtes mis?
Eh ben, on comptait commencer avec votre promo.
C'est sûr que ça motive. Les 12 et 13 juin chez Leclerc, il y a 34% de réduction avec votre carte sur une sélection de produits sur tous les rayons alimentaires bio.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors produits Eco Plus, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 9h31 sur Europe 1, juste avant Culture Média, le journal permanent, avec Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le chef des gardiens de la Révolution, mais aussi 6 experts nucléaires tués cette nuit dans les frappes israéliennes sur l'Iran. Opération baptisée par Israël Rising Lion, le lion qui se dresse et qui durera autant de jours que nécessaire, dit Benjamin Netanyahou. Objectif, repousser la menace nucléaire iranienne. Selon une information Europe 1, Téhéran était en capacité de produire 9 bombes atomiques. À noter que la frappe israélienne sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dont le centre de l'Iran n'a pas provoqué de contamination nucléaire. Et après ces frappes, les forces armées iraniennes assurent qu'elles n'auront pas de limites dans leur réponse. Téhéran a lancé 100 drones en direction de l'État hébreu. Nous nous efforçons de les intercepter, précise ce matin un militaire israélien. Situation extrêmement tendue avec un risque d'embrasement régional. Paris appelle toutes les parties à la retenue et à éviter une escalade. En attendant, les cours du pétrole s'envolent de 12%. En France, marche blanche aujourd'hui pour ne pas oublier Mélanie, surveillante lâchement poignardée à mort par un élève de 14 ans mardi dernier devant son collège de Nogent en Haute-Marne. La marche s'élancera ce soir à 18h. Et puis un mot du bac, les épreuves anticipées de français pour les premières sont en cours. Et puis rendez-vous lundi pour les terminales avec la fameuse épreuve de philosophie. Bonne révision à tous. 9h33 sur Europe 1, l'heure de retrouver Culture Média avec Thomas Hill et toute son équipe.
Et oui, c'est parti. Merci beaucoup Alexis. Et prochain point sur l'actu à 10h sur Europe 1.
Europe 1.
9h30, 11h, Culture Média.
Thomas Hill.
Bonjour. bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média ce vendredi 13. Clairement, vous avez du bol, vous êtes tombé sur la bonne émission, sur la bonne radio, avec la bonne équipe. Bonjour Anissa, Dadi, Jean-Luc Lemoine et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Vous y croyez, vous, à tous ces trucs?
Ah, je suis à fond.
Ah oui.
Ouh là là.
Superstitieuse.
Ah bah oui, ce soir, je vais gratter tous les jeux, cocher toutes les cases, tous les chiffres.
Vous y croyez tellement pas, moi.
Non, c'est les positifs et les négatifs.
Ah ouais.
Ceux qui croient que c'est mauvais, ceux qui croient que c'est bon.
Oui, c'est Antoine de Maximi qui est en train de.
Présenter.
Ça va Antoine?
Je suis déjà là, bonjour.
Bienvenue dans cette émission, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Globetrotter absolument infatigable, j'irai dormir chez vous. C'est le titre et le principe de votre programme. Vous partez seul dans n'importe quel endroit du globe et vous tentez de vous incruster chez les gens. Mais alors à Oman, ça a été une sacrée galère. Je crois que je ne vous ai jamais vu autant galérer sur une émission. Vous nous raconterez cette aventure dans un instant. Mais alors aujourd'hui, d'abord, une grande partie de l'émission sera consacrée aux plus grands. Devant 600 000 personnes, c'était il y a 25 ans, le 10 juin 2000 exactement, diffusé en direct sur TF1. Et vous allez pouvoir le revivre dimanche au cinéma. Il sera programmé dans 250 salles en France à 20h ce dimanche. Et nous serons tout à l'heure avec le réalisateur de ce concert hors norme, Gérard Pulicino, qui va nous en raconter les coulisses. Et une jeune chanteuse à la voix très impressionnante, Amalia, viendra reprendre en live une chanson de Johnny, une de mes préférées. Écoutez cette merveille.
Quelque chose en nous de Tennessee.
C'est pas beau ça quand même, franchement.
Cette volonté de prolonger la vie.
Et vous allez voir qu'elle a une manière très différente mais très belle de reprendre cette chanson. Ne loupez pas son live tout à l'heure dans cette émission. Mais avant ça, on va donc parler médias avec Antoine de Maximi et avec vous, Julien Pichenet. Qu'est-ce que vous avez dans votre baluchon ce matin?
Du football notamment. Vous savez qu'il n'y a personne pour l'instant pour diffuser la Ligue 1 la saison prochaine. Eh bien, Canal+ pourrait revenir sur le terrain. Ça se murmure.
Mais là, ça urge, hein, parce que le premier match, c'est le 15 août.
Hein. Exactement. Fiché, là. Merci d'être avec nous chaque matin. On est ensemble jusqu'à 11h. C'est parti.
9h30. 11h sur Europe 1.
Culture Média.
Thomas Hill.
Et vous le savez, on démarre évidemment cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc Antoine de Maximi pour son émission culte « J'irai dormir chez vous ».
Ah oui, ouais, j'imagine bien qu'on ne va pas recevoir Antoine pour les reines du shopping. Hein, parce que vu la monotonie de ses chemises, il ne doit pas faire les boutiques tous les jours.
J'ai rien dit. Mais c'est vrai que je suis en rouge.
J'aime beaucoup Antoine. Déjà parce qu'il est à l'antenne comme il est dans la vie.
Ouais.
Même si son émission, c'est pas vraiment un concept original. Hein.
Ah bon?
Non, je suis désolé parce qu'aller manger, boire et dormir chez des inconnus, c'est pas ce qu'on appelle un concept. Ça s'appelle vivre la vie d'un chat. Voilà, tout simplement.
C'est vrai.
Mais Antoine l'a adapté aux humains pour devenir une référence du squatteur globetrotter. Antoine, l'homme qui ne pose que des questions.
Et je peux dormir chez vous? Je peux venir manger chez vous ce soir?
Je peux entrer?
Je peux venir chez vous? Vous pensez que je pourrais passer la nuit ici? Peut-être que je peux dormir ici? Non, c'est pas possible. C'est possible ou pas?
Oui, tout le monde aime beaucoup Antoine, mais même un témoin de Jéhovah est moins envahissant quand même. À cause de lui, le monde entier doit croire que les Français sont tous des gratteurs qui s'habillent comme des pompistes. Parce qu'en plus, il a fait des émules. Nantes et Moots, de nus et culottés, le disaient en interview.
Et quelqu'un qui nous a bien inspiré à vouloir partager nos aventures, c'est Antoine de Maximi.
Ah, quelle chance que ce soit Antoine qui les ait inspirés. Parce que quand ils partent à l'aventure, je vous rappelle qu'ils sont tout nus. Hein.
Ouais.
S'ils avaient été inspirés par Yann Arthus Bertrand et sa terre vue du ciel, ils auraient peut-être fait une émission sur le zizicoptère. Et ça aurait été moins service public. Voilà. Vous avez libéré quelque chose chez nous, Antoine. Vous nous avez redonné confiance en l'être humain. Je suis tombé sur une jeune fille sur YouTube, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Anaïs, qui a décidé de faire tout comme vous, de solliciter la générosité des gens entre Nice et Genève. Elle est partie avec sa petite caméra à la rencontre des gens.
Je fais un remake de J'irai dormir chez vous, vous connaissez?
Ça me dit quelque chose. Ouais.
C'est un monsieur qui va dans tous les pays du monde et qui dort chez l'habitant. Du coup, je cherche quelqu'un pour m'héberger ce soir.
Alors, c'est là où les mots sont importants. Si vous invitez quelqu'un à vous habiter pour une soirée, vous risquez de trouver des volontaires, mais ça ne sera pas les meilleurs. Je suis très admiratif, vraiment, de vos émissions, mais moi, jamais je vous imiterai, Antoine. Parce que je vous ai vu dans les Caraïbes, à Sainte-Lucie.
Ah oui.
Ça serait pas mieux de filer?
Ne bouge pas.
Vous êtes sûr qu'on reste? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux bouger.
Reste assis.
Quand tu te retrouves dans un règlement de compte avec des mecs armés jusqu'aux dents, il faut vraiment avoir confiance dans ton karma pour oser leur expliquer que c'est pas parce que t'as des caméras partout sur toi que tu vas forcément les balancer.
C'est pas mieux qu'on y aille là.
Ouais, c'est ça. Antoine est aujourd'hui une star de la télé. La preuve, il s'est cassé le péroné lors d'un tournage et tout le monde en a parlé. Oui, en France, il y a eu la crise de la dette et l'accident d'Antoine en Côte d'Ivoire.
Et votre pied alors, ça va ?
Oui, c'est une fracture du péroné, bien propre, boulonné avec des broches et tout.
Passons sur le fait que pour Jordan, vous avez une fracture de l'os du pied, le péroné. Non, ce qui compte, c'est la réaction des villageois ivoiriens au moment de la fracture, au moment où vous sembliez souffrir le plus.
Antoine est blessé.
Antoine est blessé.
Antoine est tombé.
Ah, il manipulait.
C'est ça. Quand ça tu t'es pété la jambe et que ça a inspiré une chanson joyeuse à tes hôtes, tu sais que t'as été bien accepté par la communauté. Mais Antoine avait lui aussi le sourire car c'est un homme positif et différent. Sa plus grande crainte, par exemple, c'est qu'on le reconnaisse. Contrairement à Thomas, qui, quand il arrive dans un restaurant, dit toujours qu'il présente Culture Média, juste pour qu'on lui offre un kir.
Bien sûr.
Antoine, lui, c'est tout le contraire.
Non, mais heureusement, parce que si j'étais connu à l'étranger, ouais, je pourrais plus travailler.
Ça, c'est clair. Tout le monde vous accueillerait avec bras ouverts.
Ça aurait plus d'intérêt.
Voilà, le kiff d'Antoine, c'est de galérer pour se faire inviter. Enfin, quand il est en état. Hein. En Corée du Sud, il avait tenté un spin-off de son émission, car là, on était plus proche de « J'irai me murger chez vous hein, ». Vous remarquerez au passage que quand il a un coup dans le nez, Antoine de Maximi a presque la voix d'Homer Simpson.
Normalement, j'aime bien dormir chez les gens, mais dans l'état où je suis, je ne veux pas dormir. I think in the sea.
Bientôt. Je précise qu'aucun bruitage n'a été rajouté.
Il n'y a pas de trucage.
Tout est bio. Tout est bio. Car dans ses docs, Antoine montre la vérité du tournage, même si c'est pas toujours à son avantage.
Bah alors Antoine. C'est
ça.
Du lâchage là quand même.
Mais quels sont les goûts d'Antoine en matière de télé ? Il s'est confié au Figaro TV. On lui demandait s'il regardait des séries télé. Et je crois que vous allez être surpris.
Je suis un ennemi de la série.
Ah d'accord. Ouais.
Oui, okay. Parce que c'est addictif. Donc moi je mets ça dans la même case que la cocaïne.
Légalement Antoine, il y a une différence quand même. Hein. On n'est pas accro si on sniffe Joséphine Ange Gardien. On reste juste que de se boucher de narine, c'est tout. Antoine est un homme de télé qui ne regarde pas trop la télé et qui ne fréquente pas trop les gens de télé. Trop adepte de la chirurgie esthétique, selon lui.
J'ai rencontré un certain nombre de gens connus qu'on voit à la télé.
Ouais.
Et bien, à la télé, ça ne se voit pas trop.
Ouais.
Mais je te jure que quand tu les vois en vrai, c'est des monstres.
Alors, quand on sait que normalement les gens de télé sont plus beaux que les gens de radio, je vous laisse imaginer ce qu'Antoine va raconter en sortant de ce studio. Allez, bon week-end à tous.
Ça va être terrible, terrible. Merci Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve lundi en replay sur Europe1.fr. Et alors Jean-Luc, vous serez en spectacle, ça y est, c'est ce soir là, vous partez pour la Suisse.
Exactement, j'irai dormir chez les Suisses.
Direction Saint-Légier, vous allez essayer de vous incruster évidemment.
Je vais essayer en tout cas.
Essayer d'obtenir un kir au moins.
Restez avec nous sur Europe 1, vous écoutez Culture Média. Thomas Hill, ce matin, reçoit Antoine de Maximi. Nous allons vous faire découvrir le nouvel épisode de J'irai dormir chez vous à Oman. Une aventure inédite à voir vendredi prochain, le 20 juin à 21h sur RMC Découverte. Et ça a été l'un des plus compliqués. On vous en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Culture Média.
9h30, 11h sur Europe 1. La 6e édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca, un livre sur la plus grande grève féministe du 20e siècle en Bretagne.
Dans cette grève, c'est ça que j'ai trouvé romanesque, c'est qu'en effet, ces 3000 femmes, elles vont réussir à se souder et ça leur a donné une énergie qui a ramené en permanence celles qui doutaient, celles qui étaient prêtes à céder. Et c'est cette force, cette union, cette solidarité qui fait qu'on gagne ou pas.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF. Disponible dès maintenant en librairie.
Qu'est-ce qui vous fait aimer l'été ? C'est de passer la moitié du temps à jouer en tongs à la pétanque et l'autre moitié à discuter les points, car s'il y a bien un sport où vous excellez, c'est la mauvaise foi. Chez Decathlon, on parie que ce qui va vous faire adorer les journées au soleil, c'est le petit prix des tongs qu'on a sélectionnés. Cette semaine, les tongs femmes Roxy ou Quicksilver pour hommes sont à 9,99€ au lieu de 19,99€, soit 50% de remise. Décathlon, élu marque préférée des Français dans la catégorie enseigne de sport.
Pas très confort ces Transat, non ?
Ah, je suis bien, moi.
Mais c'est quoi ce petit bruit énervant, là ?
Bah, je veux dire la mer ?
La mer, c'est ça.
On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339€ par mois. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0€ après bonus écologique de 2000€ déduit. Sur réserve d'accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Skoda.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Et je reçois ce matin Antoine de Maximi, le réalisateur de l'émission J'irai dormir chez vous, pour un nouvel épisode qui sera diffusé vendredi prochain, qui nous emmène dans le sultanat d'Oman. Et alors, j'ai vu pas mal de vos aventures, Antoine, mais je crois que je vous ai jamais vu autant galérer pour respecter le principe de votre émission qui est quand même J'irai dormir chez vous, donc aller dormir chez les gens. Sauf que à Oman, ça ne se fait pas du tout, en fait.
Non, ça se fait pas. En fait, à Oman, t'as deux parties dans la maison. T'as la maison, proprement dite, où ils vivent, je sais pas comment ça se passe, du coup.
Bah oui.
Et il y a la pièce de réception. Mais ça, c'est valable pas uniquement pour l'étranger de passage. C'est valable pour la famille, c'est valable pour les autres personnes. Les hommes externes à la famille ne rentrent jamais dans la maison.
Ouais.
Les femmes peuvent.
Donc si vous êtes reçu quand même très gentiment
par les gens sur place,
mais à chaque fois vous n'arrivez pas à rentrer intimité, quoi.
Non seulement ils sont sympas, mais ils sont généreux.
Ouais.
C'est-à-dire le premier truc qu'ils te demandent, vous avez faim ? Ils te payent à manger tout de suite.
Ouais.
Et ça sera pas forcément avec toi. Et encore souvent, mais rentrer dans la maison, en fait, c'est une ligne rouge. Et en fait, il faut transposer à ce que ça donnerait si tu étais en France, tu vois. Tu dis, bon, voilà, j'aimerais bien venir dîner chez vous. Je dis, là, ça peut passer. Mais par contre, il faut que tout le monde soit en slip. Ça se fait pas, c'est tout. C'est un truc complètement incongru.
Ça se fait très bien.
C'est un peu la même chose que je demande. Moi, je demande un truc qui ne se fait pas.
Et alors, à un moment, vous avez même pensé carrément à laisser tomber?
Je me souviens pas.
Est-ce que vous vous l'êtes dit, ça, il y a un moment,
Non,
je n'ai
jamais tombé pour une raison très simple. L'intérêt de gérer dormir chez vous, c'est de montrer la différence des pays. Donc, c'est une expérience, c'est un voyage subjectif.
Ouais.
C'est-à-dire mon voyage à moi, filmé de manière objective, c'est-à-dire que les caméras, elles interprètent rien, c'est filmé plan-plan. Et c'est mal filmé d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que moi je suis tout seul, donc je fais tout très mal. Et en fait, tu vois quand même l'authenticité d'un pays.
Ah, on apprend énormément, évidemment. Il y a une chose qu'on ne voit pas, par contre, c'est où est-ce que vous dormez quand vous ne dormez pas chez l'habitant, du coup.
Alors,
vous allez à l'hôtel.
Je dors dans des hôtels. Hein. Moi, de toute façon, je l'ai dit dans plein d'épisodes, alors je ne le répète plus à chaque fois, je le disais plus au début. Je voyage vraiment tout seul. Il y a encore des gens qui me posent la question, oui, mais qui c'est qui vous filme? Non, c'est moi tout seul.
Ouais.
Quand la caméra elle est posée. Si quelqu'un la tient, c'est le gamin de la famille ou un truc comme ça.
C'est ça.
Mais j'ai 25 kilos. Et je vais pas avoir tout le temps 25 kilos pour essayer de rencontrer les gens de manière détendue.
Oui, et puis vous partez pas sans argent, c'est-à-dire que vous pouvez...
C'est pas Pékin Express. Et en fait, je prends donc une chambre d'hôtel, et ça me permet aussi une autre chose qui est vachement importante, c'est que je vais pas dépasser les limites. C'est-à-dire, c'est pas je dors dehors, je sais pas dans quelles conditions, donc j'insiste. Non, moi j'insiste que si c'est marrant. Tu vois, si je tombe sur quelqu'un qui est particulièrement réfractaire, là ça peut être drôle de le taquiner.
Oui, mais alors là, la difficulté que vous aviez en plus, c'est que vous aviez du mal à trouver des gens. C'est-à-dire que c'est un grand pays, très désertique, et avec finalement très peu d'Omanais.
Ça fait la moitié de la France, ils sont 2 millions.
Voilà.
Et il y a 2 millions d'expatriés qui travaillent dans le pays.
Il y a beaucoup de Bangladais, de Pakistanais, et vous vouliez vraiment rencontrer des locaux, et c'était ça votre difficulté.
On les repère très facilement.
Ah oui.
Parce que c'est un des pays où les femmes sont voilées en noir, ça, il y en a quand même pas mal, des pays comme ça.
Ouais.
Mais c'est un pays où les hommes portent aussi la tenue traditionnelle, parce que c'est pas souvent le cas.
Mais qui est blanche.
Souvent, les femmes portent la tenue traditionnelle, mais alors les mecs, ils s'en foutent. Hein.
Ouais.
T-shirt, basket. Et moi, j'aime bien, parce que c'est une vraie... Ils sont restés traditionnels.
Mmh.
Ils respectent ces traditions, mais tous.
Alors après, vous l'avez dit aussi dans cet épisode, les plus difficiles à rencontrer, ce sont évidemment les femmes la plupart du temps, donc voilées de noir comme ça, parfois vraiment de la tête aux pieds, où on ne voit que leurs yeux, et même avec ces tenues, on vous demande de ne pas les filmer.
Est-ce que vous pouvez éviter de filmer les femmes?
On la voit pas.
You see, like
elle
this.
Est voilée.
Like this.
Juste les yeux.
Alors, même, ça ne change rien. Chez nous, la femme est sacrée. Seule sa famille peut la voir.
Donc, même si on ne la voit pas du tout, on ne peut pas la filmer.
C'est une question de dignité. Nous protégeons nos femmes et notre famille du regard extérieur.
Ok, so, bon, bah, pas de photos. Ouais, alors, en fait, ça dépend des régions. Parce que dans le Sud, ils sont vraiment très traditionnels, traditionnalistes.
Ouais.
C'est le bon mot.
Oui, on peut dire islamistes aussi, hein, parce que c'est aussi.
Oui, alors,
aussi
comme il y a une nuance entre les deux, je vous laisse. Je vous laisse juger. Non, mais vraiment, c'est comme l'Arabie Saoudite.
Ouais.
Et quand tu vas dans le Nord, et a fortiori dans la ville de Nizwa, qui est une ville qui est très touristique, là, la mentalité change. Et j'ai eu une discussion avec quatre sœurs. Voilé, mais le visage complètement apparent, et qui me disait, mais non, on a le droit de te parler, on sort sans nos maris. Donc, c'est comme partout, je veux dire, il y a des endroits qui sont plus sérieux, plus serrés. Même en France, hein, je veux dire, il y a des endroits, c'est plus olé olé. Hein.
Mais il y a quelque chose de surprenant avec vous, justement, c'est que vous, au maximum, vous dites, c'est assez surprenant. Vous ne jugez jamais.
Non.
Vous n'êtes même jamais choqué, en fait.
Non, parce que moi, il y a un truc que j'ai compris.
Parce que là, il y a des images qui peuvent être un peu choquantes quand même. Quand on voit ce mari répondre à la place de sa femme, qui a le visage entièrement voilé, c'est quand même un peu choquant.
J'ai eu des trucs bien pires que ça dans d'autres pays.
Ouais.
Non, il y a des trucs plus choquants que ça dans d'autres pays. Mais moi, il faut. En fait, il y a un truc à comprendre. Le monde, il est encore varié. Mmh. Beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Moi, j'ai commencé à voyager il y a 50 ans. Il est varié, et donc les gens qui sont à un endroit, ils ont leurs coutumes, et chez eux, c'est normal de faire comme ça. Mmh. Donc toi, t'arrives avec ta mentalité de Français. Eh ben, je dis pas que je respecte tout, parce que ça, c'est pas vrai, mais je comprends tout, c'est différent chez eux. Donc, on n'a pas arrivé en disant, il faut changer les choses, parce que sinon, ils vont faire la même chose.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais.
Donc, les pays sont différents.
Et puis, vous arrivez un peu à découvrir quand même la vie de certains Omanais. Moi, j'ai été frappé par cet homme qui, alors comme beaucoup là-bas, travaillait dans le pétrole, et qui vous raconte qu'il a pris sa retraite à 45 ans, sachant que quand il bossait, il avait 15 jours de vacances par mois. c'est quand même exceptionnel.
Oui.
Quoi.
Ah oui, c'est
un
différent.
Beau statut. Hein,
c'est pas mal. Hein.
Oui.
Ah, on l'a pas ça en France, ça.
Ah, il est philosophe sur le travail.
Il y en a beaucoup là-bas, en fait. C'est une économie qui repose presque intégralement sur le pétrole.
Oui, mais il faut bien comprendre. C'est un pays qui était, les gens étaient sous la tente, il n'y avait pas vraiment. Ouais. Puis le pétrole est arrivé, je ne sais pas exactement à quelle époque, mais là, tout a changé. Et c'est étonnant. Alors là, j'ai pas constaté ça cette fois-ci, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'ai tourné aux Émirats, les gens avaient des maisons toutes neuves, mais vraiment des belles maisons, mais ils étaient restés avec la mentalité de la tente. Et ce qui se passait, c'est qu'ils ouvraient leur garage et ils avaient des tapis dans leur garage et les gens passaient les voir là, dans le garage. Alors qu'ils avaient des maisons somptueuses. Parce qu'ils avaient gardé leur tradition.
Et il y a un peu de ça, hein, parce que là, les maisons ne sont pas très meublées. Vous êtes souvent, c'est très très sobre.
La pièce de réception est toujours impersonnelle. Tapis, coussin.
Voilà, terminé. Eh ben regardez, franchement, cette aventure, ça vaut le coup de découvrir ça. J'irai dormir chez vous à Oman. C'est à regarder vendredi prochain, 21h10, sur RMC Découverte.
Non, attends, c'est ce soir, si je me gourre pas. Non, c'est prochain.
C'est le 20,
je suis à raison.
Là, on est le 13.
C'est aussi sur la plateforme, évidemment, vous pouvez le revoir. Restez avec nous, Antoine de Maximi, pour suivre l'actu des médias dans un instant.
Oui, mais ça, c'est le jet lag, ça. Le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Ce matin, on va parler, entre autres, de football. Canal+ pourrait revenir sur le terrain la saison prochaine. Oui. Canal+ pourrait redevenir la chaîne de la Ligue 1. On vous en dit plus dans un instant sur Europe 1.
Ce week-end sur Europe 1.
Demain, de 17h à 18h, Isabelle Morizet accueille Frédéric Taddeï
pour la nouvelle édition de ses Birthday Books.
Dimanche, de 11h à 12h30,
assistez avec William Lémergie à la 20e édition de la Nuit des Chimères au Mans.
Et de 18h à 19h,
Nicolas Carreau reçoit Sophie Broca.
Lauréate 2025 du Grand Prix Europe 1 GMF.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme, et parfois énorme c'est immense. Mais parfois grand c'est juste grand, et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster à partir de 24 990 euros est maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essential Mild Hybride 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô, t'as vu le prix des glaces
Magnum chez Lidl. Ça me glace.
Oh, j'ai vu, patron. En ce moment, il y a moins 60% sur le deuxième paquet de Magnum amande ou chocolat blanc. Soit 2,65€ le deuxième paquet au lieu de 6,64€ qui sont givrés.
2,65€ le paquet de Magnum. J'en ai des frissons.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 735, 750 grammes, 6,64€ le paquet vendu seul, 9,03€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Observons un bricoleur à tête froide dans son jardin. Il cherche la fraîcheur durant la saison chaude. Et sur Mano Mano, il trouve les parasols, clim et piscine pour enfin les arder tout l'été. C'est ça, l'effet Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Offre soumise à condition, voir les détails sur manomano.fr.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos pastèques ont tout d'une très bonne pastèque. Fraîches et juteuses, elles vous permettront aussi de surprendre vos convives avec un petit... Bah, tu sais que ça se grille, les pépins de pastèque. Bah, c'est la tendance gourmande du moment. Hein. Oui, vraiment, nos pastèques ont tout d'une très bonne pastèque, mais à prix discount. 3,99€ seulement la pièce. Oui, 3,99€. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, origine Espagne, offre valable jusqu'au samedi 14 juin, info sur aldi.fr.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Antoine de Maximi ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichny.
Avec les audiences d'abord, il y avait HPI hier soir, la série TF1.
Effectivement, 5 200 000 téléspectateurs pour TF1 et la fin de ce premier volet. La cinquième saison sera diffusée en deux salves. Les audiences chutent par rapport à la quatrième saison, hein, clairement. Thomas, même si on repasse là au-dessus de la barre des 5 millions et que les parts de marché avoisinaient les 30%, ça reste évidemment un score énorme. Les autres chaînes ont eu bien du mal à s'en sortir en face. 2,2 millions pour la série Tandem sur France 3 et 1,2 million pour Envoyé Spécial sur France 2.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis un point d'abord sur cette rumeur qui circule depuis quelques heures. Laurent Delahousse pourrait quitter le 20h de France 2 à la rentrée.
C'est une rumeur, hein, relayée par le site CGTV. Après Anne-Sophie Lapix en semaine, la direction de France Télévisions pourrait, selon cette source, se séparer aussi de son collègue du week-end, une tranche que Laurent Delahousse présente depuis 18 ans. Pour
après
l'instant.
Maximi, il y a 5 ans.
Yep. Voilà, pour l'instant, l'intéressé Laurent Delahousse dément cette information auprès de ses équipes. On sera vite fixé. Hein. Rappelons qu'Anne-Sophie Lapix, elle, qui présente le 20h en semaine sur France 2 depuis 7 ans, présentera son dernier JT mi-juillet.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Antoine de Maximi, vous êtes sur RMC Découverte.
Oui.
Vous avez été viré de France Télévisions?
Oui, enfin, ils n'ont pas voulu continuer.
Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe en général.
Ça se termine toujours comme ça en général, pas souvent.
Enfin, mais vous avez signé ou pas pour la saison prochaine?
C'est en cours. Tombe d'accord, moi je continue. Tant que je m'amuse, je continue.
Vous continuez. Voilà. Et alors, côté sport maintenant, Canal+ fait une offre à la Ligue de foot professionnelle pour sa nouvelle chaîne 100% Ligue 1.
Et selon le journal L'Équipe, le partenaire historique du championnat de Ligue 1 aurait proposé d'être le mandataire exclusif de la distribution de cette nouvelle chaîne pour les 4 année à venir. Canal+ souhaiterait également co-diffuser sur son antenne l'affiche du dimanche soir. Alors si cette proposition n'est pas retenue, eh bien le groupe Canal+ se dit prêt également à être un distributeur plus classique de cette chaîne Ligue 1. La force de frappe de Canal+ est telle que les spécialistes estiment que cette nouvelle chaîne pourrait rapidement compter entre 800 000 et 1 million d'abonnés, soit beaucoup plus que DAZN cette année. On disait hier, pour l'instant, c'est un abonnement à moins de 20€ par mois qui est évoqué.
Et puis alors, il y en a une qui cartonne toujours autant, c'est assez incroyable même, c'est Dorothée. Son concert prévu le 4 avril prochain au Palais des Congrès à Paris affiche déjà complet.
Alors selon Télé 7 Jours, tous les billets ont été vendus en 8 minutes. C'est quand même pas mal. En
fait. Incroyable.
Une superstar américaine. Exactement, tout à fait. Il faut dire qu'elle ne s'est pas produite sur scène seule en vedette depuis 2010. Alors la production a décidé de retenir une date supplémentaire. Dorothée chantera aussi le 5 avril. Les billets seront mis en vente, je regarde l'heure, dans 3 minutes.
Ah oui,
à 10h.
Ah ouais,
dépêchez-vous, parce qu'à 10h08, il n'y aura plus rien. Anissa est déjà dessus.
Mais c'est vrai que c'est la Beyoncé française, hein, clairement.
Non,
même musicalement, il y a vraiment quelque chose. Allez. Une nouvelle chaîne consacrée aux océans débarque ce week-end sur YouTube.
Big Blue TV, la chaîne des océans, proposera à la fois des documentaires, des reportages, des témoignages pour mettre en lumière les océans, les mers et la planète plus généralement. Un entretien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne est d'ores et déjà disponible sur YouTube. Le cofondateur de cette chaîne, Philippe Legrand, également consultant éditorial de Paris Match et journaliste pour Europe 1, nous en dit plus sur le premier reportage qui sera publié dimanche.
En fin de journée, on diffusera le grand entretien avec son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco. Un entretien que nous avons enregistré à l'Institut de France et qui porte sur le thème des océans et de son regard sur notre planète.
Philippe Legrand, qui a cofondé Big Blue TV, la chaîne des océans, avec Jean-Christophe Colette. Philippe Legrand, que vous retrouvez également le dimanche dans Europe 1 Matin Week-end pour une date, une histoire. 9h58 à Nice, il vous reste 2 minutes encore pour Dorothée. Attention, attention.
Vite. Merci Julien pour ce journal des médias. J'irai dormir chez vous à Oman. C'est à regarder vendredi prochain, donc le 20 juin, 21h10 sur AMC Découverte. Merci beaucoup Antoine de Maxime.
Merci beaucoup
d'être venu ce matin. On peut vous retrouver également le 11 juillet au Grand Point Virgule, parce que vous avez un spectacle avec toutes vos aventures également.
Et Culture Média, Thomas, il continue après les infos de 10h sur Europe 1.
Avec une heure consacrée à Johnny Hallyday, on sera notamment avec le réalisateur Gérard Pulicino, qui il y a 25 ans a capté le grand concert de Johnny à la Tour Eiffel. A tout de suite.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui est un jour important pour environ 2200 personnes qui fêtent leurs 65 ans en France métropolitaine et en Outre-mer. À tous ceux qui ont déjà franchi le cap des 65 ans et à ceux qui célèbrent cet anniversaire, vous entrez dans la zone à risque. Ça y est, j'ai toute votre attention. Il faut savoir que plus de 90% des personnes de 65 ans et plus sont déjà porteuses du virus responsable du zona. Et le principal facteur de risque, c'est tout simplement l'âge. Alors, si vous avez 65 ans ou plus, c'est le bon moment pour en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. N'attendez pas, faites-le dès aujourd'hui. Plus d'informations sur demain-santé.fr.
Ce message de sensibilisation vous a été présenté par le laboratoire GSK.
Carrefour. Quand vous me dites le whisky, à servir dans de très beaux verres, évidemment. Eh bien, ça me donne envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la bouteille de Scotch Whisky Single Malt Sodeveron 10 ans d'âge est à 16,30€ au lieu de 24,70€. Alors rendez-vous jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour. 70 centilitres, soit 23,29€ le litre, 40 degrés par volume, détails sur Carrefour.